Vous savez ce à quoi on met le plus de temps à s'habituer en prison? Le bruit. Juste le bruit incessant des hommes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hommes qui grognent, qui pètent, qui ronflent, qui baissent, qui crient. Des détenus qui marmonnent, perdus dans leur monde délirant. Des condamnés qui parlent, 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 même pendant qu'ils sont sur les chiottes. Comme si chier à la vue de tout le monde était en quelque sorte plus facile s'ils bavassent pendant toute l'affaire. Pendant mon premier mois d'incarcération, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais sous le choc des odeurs, des images, mais surtout de ce bruit incessant qui ne vous accorde jamais ne serait-ce que 30 secondes pour vous évader dans un coin de votre tête où vous pourriez faire comme si vous n'étiez pas un jeune de 19 ans à qui une chose pareille vient d'arriver. Je me suis fait violer la troisième semaine. J'ai été avertie par le bruit des chaussures à semelles souples qui se sont brusquement précipitées vers moi dans mon dos. Puis d'autres bruits classiques en prison. Le choc mou d'un poing qui percutait un rein. Le craquement d'un crâne contre le mur en parpaing. Les cris excités des autres animaux du zoo, tandis que, hébétée et effondrée au sol, ma combinaison orange quelque part autour des chevilles, je me faisais passer dessus par un, deux, trois, peut-être une demi-douzaine de types. Personne ne ressort vierge de prison. Eh oui, ma petite dame. Jerry est venu me voir la quatrième semaine. Le seul visiteur que j'ai jamais eu. Mon beau-père s'est assis en face de moi, a observé mon visage meurtri, mes yeux traumatisés, et il a éclaté de rire. Je t'avais dit que tu tiendrais pas un mois, petit merdeux efféminé. Il est parti. C'est lui qui m'a dénoncé. Il avait trouvé ma planque de lettres, celle que j'avais écrite à Rachel. Alors il a appelé les flics, mais pas avant de m'avoir tendu une embuscade dès mon retour du lycée. Il m'a frappé à l'arcade sourcilière avec le casier métallique dont je me servais pour ranger mes quelques affaires personnelles. Ensuite, il s'est acharné sur moi à coups de poing. Jerry faisait 1m80 et 120 kilos. À son époque, il avait été joueur vedette dans l'équipe de football de son lycée, puis il avait travaillé sur un bateau de pêche au homard avant de perdre deux doigts et de s'apercevoir qu'il préférait vivre au crochet des femmes. Ma mère avait été la première. Mais depuis qu'elle était morte, quand j'avais 7 ans, il avait trouvé plusieurs remplaçantes. Je n'avais été là qu'en spectateur après ça. Plus un membre de la famille, juste le petit blondinet dont Jerry se servait pour ramasser des poulettes. Je n'étais même pas son fils, essayais-je de dire aux femmes, mais elles s'en foutaient. Apparemment, les veuves sont sexy. Même ceux qui ont une énorme bedaine de buveur de bière et deux doigts en moins. Jerry frappait comme un sourd et j'étais à l'ouest dès le premier coup. Il m'en a filé 20 autres, histoire de ne pas faire les choses à moitié. Ensuite, pendant que j'étais recroquevillée par terre à cracher du sang, il a appelé les flics pour qu'ils viennent ramasser les ordures. Les flics n'ont pas eu un mot de réprobation quand ils sont entrés. Après un salut à Jerry, ils ont baissé les yeux vers ma pitoyable carcasse. C'est lui ? Oui, monsieur. Et elle n'a que 14 ans. Je vous le dis, c'est un salopard de détraqué. Les flics m'ont remis sur pied, je crachais encore du sang et je ne tenais pas sur mes jambes, les paupières gonflées. Alors Rachel est apparue. Elle a remonté l'allée, tout juste descendue du bus qui la ramenait du collège, perdue dans ses pensées. Puis elle s'est peu à peu aperçue que la porte d'entrée était déjà ouverte, que tout un attroupement d'hommes en uniforme se trouvait là. Nous avons tous vu la compréhension se peindre sur son visage. Ensuite, en regardant mon nez enfoncé et mon œil qui enflait rapidement, elle s'est mise à crier, à crier, à crier. J'aurais voulu lui dire que j'allais m'en sortir. J'aurais voulu lui dire que j'étais désolée. J'aurais voulu lui dire que je l'aimais et que ça en avait valu la peine, la douleur, tout. Je l'aimais à ce point-là. Mais je n'ai jamais pu dire quoi que ce soit. Je suis tombée dans les pommes. Quand j'ai repris connaissance, j'étais en chambre de sûreté et je n'ai plus jamais revu Rachel. J'ai plaidé coupable pour elle, pour lui épargner le traumatisme d'un procès, comme le procureur me l'a demandé. J'ai renoncé à ma liberté. J'ai renoncé à mon avenir. Mais les tribunaux vous diront que ce n'était pas de l'amour. Je sais ce que j'ai à faire ce soir et ça me fait vraiment chier. La jolie fliquette va revenir. Elle a cet air-là, l'air du chien qui a flairé l'os. Et les gars du garage vont venir aussi, sauf qu'ils auront des battes de baseball et des rouleaux de pièces de monnaie serrés dans les poings. Ils ont aussi cet air-là. Vous savez, celui des gros bras armés de fourches qui bavent d'excitation. Même Wendell m'a appelé cet après-midi, le connard exhibitionniste du groupe de thérapie. Nous ne sommes pas censés connaître les coordonnées les uns des autres, mais Wendell a sans doute soudoyé un larbin pour pouvoir me cuisiner sur les dessous de l'affaire. Il avait vu la conférence de presse sur la disparition et il voulait tout savoir. Pas parce qu'il me croyait innocent, notez bien. Pas parce qu'il voulait me remonter le moral. Non, il voulait des détails. À quoi ressemblait Sandra Jones? Quel était le son de sa voix? Qu'est-ce que j'avais ressenti en lui faisant rendre son dernier souffle? Wendell ne doute aucunement que je l'ai assassiné. Il s'en fout. Il veut juste que je partage ce moment avec lui pour alimenter ses fantasmes au moment de se branler. Tout le monde a un avis sur moi et ça commence vraiment à me courir. Alors je suis allée au magasin de spiritueux. Merde pour ma conditionnelle. De toute façon, je vais me faire arrêter alors que j'ai rien fait. Donc, suivant la bonne vieille tradition qui dit que je ferais aussi bien de commettre la bêtise vu qu'apparemment je vais être punie, je vais me pinter. Pas de bière pour moi. Je vais y mettre les formes. Du whisky Maker's Mark. C'était toujours ce qu'achetait mon beau-père. Je m'en suis servi le premier soir où j'ai séduit Rachel. Je nous ai versé des bonnes rasades avec de la limonade. Que font deux gamins qui s'ennuient après les cours s'ils n'ont piqué dans la réserve d'alcool? J'achète deux bouteilles et je rentre pratiquement en courant parce que maintenant que j'ai décidé de faire des conneries, je veux pas en perdre une miette. J'ouvre le premier litre et je bois direct au goulot. À la première gorgée, je manque de cracher mes poumons. J'ai jamais été un gros buveur, même quand j'étais un glandeur au lycée. J'ai oublié à quel point le whisky peut brûler. « Merde !» dis-je la gorge nouée. « Mais j'insiste. Oh, j'insiste. » Une demi-douzaine de lampées plus tard, j'ai bien chaud au ventre et je me sens déjà plus calme, décontracte même. Parfait pour ce que j'ai à faire. Je vais à mon placard, je débarrasse tous mes vêtements et ils se trouvent là. Une grosse boîte en métal. L'objet dont je suis pratiquement sûre que la blondinette l'a découvert et sur lequel elle a maintenant envie de me poser beaucoup de questions. Qu'elle y vienne donc. Je prends la boîte, dernier vestige de mon ancienne vie. Je la sors en titubant dans le jardin. La nuit est froide, je devrais enfiler un pull. Quelque chose d'autre que mon affreux t-shirt blanc habituel. Au lieu de ça, je prends encore du Maker's Mark. De quoi me réchauffer jusqu'au bout des pieds. Ouais, ma petite dame. J'ouvre la boîte. Elle est remplie de messages. J'ignore pourquoi Jerry les a pas jetés. À ce que je peux imaginer, Rachel a pris la boîte, peut-être cet après-midi-là. Elle l'a emportée. Elle l'a sauvée pour moi. Et je ne sais pas comment, un après-midi où je travaillais chez Vito, elle l'a laissée devant ma porte pour moi. Je suis rentrée et boum, c'était là. Pas d'emballage, pas de petits mots, pas même de numéro de téléphone à rappeler. J'imagine que c'était forcément elle, pas vrai, parce que qui d'autre aurait fait une chose pareille? Et ça m'a fait penser qu'elle devait avoir 17 ans maintenant. Qu'elle était assez vieille pour conduire, assez intrépide pour affronter le voyage depuis Portland jusqu'à Boston. Peut-être qu'elle avait découvert mon adresse sur les chèques que j'envoie à Jerry. Peut-être qu'une fois qu'elle avait su où j'habitais, elle avait voulu me rendre visite, savoir où j'allais. A-t-elle lu les lettres? L'ont-elle aidée à comprendre pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait? Pendant les premières années, j'ai passé le contenu de la boîte en revue. Autant que je pouvais en juger, toutes les lettres que j'avais écrites s'y trouvaient, y compris les ébauches de mauvais poèmes, la carte de prompt rétablissement que j'avais fabriquée quand elle avait la mono, les bouts de verre auxquels je m'étais essayée alors que j'aurais vraiment mieux fait de m'en tenir à la mécanique. J'ai cherché si elle avait pas griffonné des réponses dans la marge. Peut-être une touche de rouge à lèvres, une empreinte grasse laissée par sa main. Un soir, pris d'une soudaine inspiration, j'ai aspergé les lettres de jus de citron parce que je venais de regarder un épisode de Mythbusters, où il révélait de l'encre sympathique avec de l'acide citrique. Rien. Alors j'ai attendu qu'elle revienne, jour après jour. Elle savait où j'habitais, alors mon Dieu, j'espérais, je priais pour la revoir. Rien que 5 minutes pour lui dire quelque chose, pour tout lui dire, rien que pour la voir. Ce jeu de patience ne se révéla pas si différent de ma recherche de notes griffonnées dans la marge. Au bout de tous ces mois, cela n'avait toujours rien donné. Et je me demande aujourd'hui, comme je me le suis demandé chaque jour derrière les barreaux, si elle m'a jamais aimée. Je m'envoie une autre gorgée de Maker's Mark et ensuite, avant que ma gorge cesse de brûler, je craque l'allumette et je regarde la collection de lettres d'amour la plus coûteuse du monde s'embraser. Je les arrose de whisky pour faire bonne mesure et le feu approuve d'un grondement. Mais au dernier moment, je peux pas, c'est trop dur. J'y vais à main nue. J'attrape tout ce que je peux comme des petits morceaux, même si le feu me lâche les poignets et fait fondre les poils sur mes mains. Les bouts de papier se replient, se désintègrent sous mes doigts. s'envolent comme des escarbilles incandescentes. Non, je pleure comme un imbécile. Non, non, revenez, non. Et je me retrouve à pourchasser des papillons de feu dans le jardin, les avant-bras brûlants, les jambes flageolantes. Et alors ça m'en revient. Les bruits. Jamais on n'oublie les bruits de la prison. Or, je les entends en ce moment même dans le jardin de devant. Mes cheveux sont en feu. Je ne le remarque pas sur le coup et c'est probablement ce qui sauve la vie à mon voisin. Je déboule à l'avant de la maison, battant frénétiquement des bras, tandis que mes cheveux lancent des flammes orange vif. Je tourne au coin de la maison et trois types me regardent en même temps. « Aidan ?» dit le premier d'un air hébété. Il s'appelle Carlos. Je reconnais tout de suite sa voix. Il bosse au garage. Puis tous trois baissent les yeux vers la masse noire sur le trottoir. « Oh merde !» dit le deuxième. « Mais alors si, c'est Aidan ?» commence le troisième, qui n'a manifestement pas inventé la poudre. Un pied botté sur le dos de l'homme à terre, il est penché en avant, le bras droit prêt à s'abattre, interrompu en plein coup de poing. Je m'aperçois à cet instant que j'ai toujours la bouteille de Maker's Mark à la main. Alors je fais ce qu'il y a de plus intelligent à faire et je la fracasse contre le coin de la maison recouverte de bardeaux en vinyle de Madame H. Ensuite, je brandis le tesson au-dessus de ma tête et, sous de mauvais whisky et d'amour déçu, je me lance dans la mêlée en poussant des cris de harpie. Trois ombres vêtues de noir s'écartent et Carlos montre l'exemple en prenant immédiatement la fuite à toutes jambes. Le candidat numéro 3 se montre à nouveau stupide et lent. Je le touche en haut du bras avec mon arme improvisée et il pousse un cri de chat strident quand je fais couler le sang. « Merde, merde, merde !» ne cesse de répéter le candidat numéro 2. Je lui plante la bouteille dans le flanc. Il s'éloigne d'un bond. Je me fends et le touche à la cuisse. « Carlos !» hurle-t-il à présent. « Carlos, Carlos, qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Je suis déchaîné. Je suis ivre, en colère et fatigué de servir de paillasson dans le grand jeu de la vie. J'essaie de frapper monsieur stupide et lent, j'essaie de taillader monsieur oh merde. Je pète un câble et la seule chose qui les sauve, c'est que je suis déjà le bagarreur le plus nul du monde quand je n'ai pas bu. Alors quand je suis ivre, je suis tout feu tout flamme mais je me disperse. Rapidement, les deux types parviennent à échapper à mes moulinets enragés et déguerpissent dans la rue sombre à la suite de Carlos parti depuis longtemps. Il ne reste que moi, qui ferraille contre des ombres et hurle des menaces de mort obscènes, jusqu'à enfin m'apercevoir que mon crâne me fait atrocement souffrir et que je sens une odeur épouvantable. Instantanément, je laisse tomber le tesson de bouteille de whisky et je sautille au milieu de la rue en essayant d'étouffer les braises qui fument dans mes cheveux fondus. Merde ! Oh merde, merde, merde ! À mon tour d'être un crétin. Je me tapote frénétiquement la tête jusqu'à ce qu'il me semble que la chaleur diminue. Alors le souffle irrégulier, petit à petit, je prends la mesure de mes turpitudes. Je suis saoul, j'ai fait cramer presque tous mes cheveux, mes bras sont couverts de suie noire et de cloques, tout mon corps me fait mal de chien. Le tas noir sur le trottoir revient enfin à lui avec un gémissement. Je m'approche de lui, je le retourne sur le dos, et je retrouve mon voisin Jason Jones. Mais qu'est-ce que vous foutez dehors à une heure pareille ? Demandai-je 10 minutes plus tard. J'ai réussi à traîner Jones jusqu'à mon appartement, où je l'ai calé sur le canapé à fleurs de Madame H, avec un sac de glace sur la tête et un autre sur le côté gauche. Son œil gauche est déjà à moitié enflé et la présence d'un pansement suggère que ce n'est pas sa première dérouillée de la journée. « Vous êtes con ou quoi ? » demandai-je. Je suis en train de redescendre de mon pic d'adrénaline, je tourne en rond devant la kitchenette en faisant claquer l'élastique vert. Je voudrais pouvoir rentrer sous terre. « Qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux ?» demande Jones d'une voix enrouée. « Vous occupez pas de mes cheveux. Qu'est-ce que vous fabriquez à rôder dans le quartier déguisé en ninja de banlieue ? Le cirque en face de chez vous ne vous suffit pas ? Les journalistes, vous voulez dire ? Des cannibales. » Étant donné que je suis l'un d'eux et qu'ils se repaissent de mon histoire, la métaphore est pertinente. Je me renfrogne encore davantage. Vu l'humeur dans laquelle je suis, j'en ai rien à foutre des métaphores pertinentes. « Qu'est-ce que vous fabriquez ? » insistai-je. « Je vous cherche. Pourquoi ? Vous avez dit que vous avez vu quelque chose le soir où ma femme a disparu. Je veux savoir ce que c'était. Vous pouviez pas prendre votre téléphone pour me poser la question ? J'aurais pas pu lire sur votre visage si vous mentiez en répondant. Ben voyons, vous pouvez me regarder dans les yeux autant que vous voulez sans savoir si je mens. « Essayez voir, » murmure-t-il. Et il y a dans son œil mi-clos une lueur qui m'inquiète davantage que les trois malabars qui lui sont tombés dessus sur le trottoir. « Ah ouais ? » dis-je en essayant de jouer les machos. « Si vous êtes tellement fort, pourquoi c'est moi qui ai chassé les voyeurs ? » et qui vous ait ramassé en vrac sur le trottoir. Ils se sont jetés sur moi par derrière, dit-il d'un air contrit en replaçant le sac de glace. Qui c'était ? Des amis à vous ? Oh, juste des gens du coin qui ont découvert qu'il y avait un délinquant sexuel fiché dans le quartier. Revenez demain soir, même heure, même endroit, vous aurez sans doute droit au même spectacle. On s'apitoie sur son sort ? Demande-t-il posément. Et pas qu'un peu. Ça explique le whisky. J'en ai une autre bouteille pleine, vous en voulez ? Je ne bois pas. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait chier. Ça me fait penser à cette vieille chanson. Don't drink, don't smoke, what do you do? Goody two, goody two, goody goody two shoes. Jones me regarde bizarrement. Putain, Adam Hunt, m'énervais-je. Les années 80, vous avez grandi où? Dans le désert? Dans une cave, pour être plus précis. Et vous êtes trop jeune pour vous souvenir des années 80. Alors je hausse les épaules, gênée, m'apercevant trop tard que j'en ai trop dit. Je connaissais une fille, murmurai-je. Elle adorait Adam Hunt. C'est celle que vous avez violée ? Demande-t-il avec flegme. Oh, la ferme, vous entendez ? J'en ai plein le cul, tout le monde s'imagine qu'il sait tout de moi et de ma vie sexuelle. Ça s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis renseignée sur vous, continue-t-il sur un ton monocorde. Vous avez couché avec une fille de 14 ans. C'est du détournement de mineur, alors si, ça s'est passé comme ça. Je l'aimais, explosai-je. Il me dévisage. Il y avait quelque chose entre nous. C'était pas qu'une histoire de cul. J'avais besoin d'elle. Elle avait besoin de moi. Nous étions les deux seuls à nous soucier l'un de l'autre. C'est quelque chose, merde. C'est de l'amour. Il me dévisage. Oui, c'est de l'amour. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, c'est tout. Il finit par répondre. Vous savez que le plus grand dénominateur commun chez les pédophiles dangereux, c'est qu'on leur a imposé leur première expérience sexuelle avec un adulte avant l'âge de 15 ans. Je ferme les yeux. Et puis je vous emmerde, dis-je d'une voix lasse. Je trouve la bouteille de whisky rescapée sur le bar et je m'attaque à la capsule, même si je commence à me sentir tellement nauséeux que le corps n'y est pas. Vous n'auriez pas dû la toucher, continue-t-il. Vous retenir, ça aurait été de l'amour. La laisser grandir, ça aurait été de l'amour. Ne pas profiter d'une collégienne isolée et vulnérable, ça aurait été de l'amour. Rester amie, ça aurait été de l'amour. Vous savez quoi ? Vous pouvez retourner vous allonger sur ce trottoir, lui répondis-je. Je suis sûre que quelqu'un d'autre viendra vite à votre secours. Mais apparemment, il n'a pas encore fini. Vous l'avez séduite ? Comment vous y êtes pris ? Drogue, alcool, mots doux ? Vous y avez réfléchi, vous avez organisé ça. Comme vous étiez plus âgé, vous aviez la maturité et la patience de votre côté. Vous avez peut-être attendu, choisi le bon moment. Elle se sentait triste et seule à cause de quelque chose et vous étiez là. Vous avez proposé de lui masser le dos. Vous lui avez peut-être servi un verre, rien qu'un petit verre, vous lui avez dit « ça t'aidera à te détendre ». Et peut-être qu'elle était mal à l'aise, peut-être qu'elle a essayé de vous dire d'arrêter. « Fermez-la », dis-je sur un ton dur et menaçant. Il se contente de hocher la tête. « Ouais, elle vous a bel et bien demandé d'arrêter. Elle vous l'a demandé sans ambiguïté, vous n'avez pas écouté. Vous avez continué à la caresser, à la ploter, à pousser votre avantage. Que peut-elle faire ? Elle n'a que 14 ans. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe en elle. Elle a envie que vous arrêtiez, envie que vous continuiez. Ce n'est pas bien. Elle est gênée et embarrassée. Je traverse la pièce en trois enjambées et je lui envoie un revers de la main dans la figure. La claque retentit étonnamment fort. Sa tête part sur le côté. Le sac de glace tombe sur un apron. Il se retourne lentement en se massant le menton d'un air presque pensif, puis ramasse le sac de glace et le replace sur son front. Il me regarde droit dans les yeux. Et ce que je vois dans son regard me donne le frisson. Il ne bouge pas d'un cil. Moi non plus. Dites-moi ce que vous avez vu mercredi soir, demande-t-il tranquillement. Une voiture qui descendait la rue. Quel genre de voiture ? Le genre avec plein d'antennes. Peut-être une limousine de location. On aurait dit une berline noire. Qu'avez-vous dit à la police ? Que vous êtes un salopard d'assassin, lui crachai-je au visage. Que vous essayez de me servir sur un plateau d'argent à la police pour sauver votre peau. Il regarde ma tête, mes mains, mes avant-bras. Qu'est-ce que vous avez brûlé ce soir ? tout ce que je voulais. Vous collectionnez les revues porno, Aidan Brewster ?
Pas vos oignons.
Jones repose le sac de glace. Il se relève devant moi, je recule. Je peux pas m'en empêcher. Des yeux si sombres, bordés de sang, de bleu et de Dieu sait quoi. J'ai un sentiment de déjà-vu, le sentiment d'avoir déjà croisé un tel regard, peut-être en prison. Peut-être le premier gars qui m'a jeté par terre, en sang, et qui m'a tabassé à mort. Je réalise qu'il y a quelque chose de pas vraiment humain chez mon voisin. Jones s'avance. Non, m'entends-je souffler. J'ai brûlé des lettres d'amour, merde. Mes propres messages, puisque je vous dis que je suis pas un pervers. Son regard explore la pièce. Vous avez un ordinateur, Aidan ? Non, putain, j'ai pas le droit, pas en conditionnel. N'allez pas sur Internet, me dit-il. Je vous préviens, une seule visite sur un seul forum pour dire un seul mot à une seule ado, il vous brise. Vous vous arracherez une main pour m'échapper. Mais qui vous êtes ? Il se penche au-dessus de moi. Je suis celui qui sait que vous avez violé votre demi-sœur, Aidan. Celui qui sait exactement pourquoi vous donnez $100 par semaine à votre beau-père. Et celui qui sait combien votre amour coûtera toute sa vie à votre malheureuse victime devenue anorexique.
Mais vous pouvez pas savoir, réponds-je comme un imbécile. Personne ne sait. J'ai réussi le test du détecteur de mensonges. C'est vrai, j'ai réussi le test du détecteur de mensonges.
Il sourit à présent, mais cette expression associée à ses yeux vides me donne froid dans le dos. Il se détourne, prend le couloir.
Elle m'aimait,
lançai-je faiblement derrière lui. Si elle vous aimait, elle serait revenue auprès de vous à l'heure qu'il est, vous croyez pas ? Jones tire la porte derrière lui. Je reste seule dans mon appartement, mes mains brûlées serrées en poing rageur. Je me dis que je le hais. Puis je décapsule la seconde bouteille de Maker's Mark et je passe aux choses sérieuses.